17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Grand témoin aujourd'hui, Abdelrahman Mebtoul. Merci d'être présent, Abdelrahman.
Je vous remercie de cette aimable invitation.
De passage à Paris, on vous a sauté dessus parce que vos conseils sont toujours précieux et c'est très important dans ce climat de guerre. Vous êtes conseiller économique, vous êtes un ancien ministre, spécialiste des questions économiques, des questions énergétiques. Vous avez été chef de file de la délégation algérienne au sommet de la société civile des deux rives de la Méditerranée. Vous allez nous parler du dialogue euro-méditerranéen et vous avez été bien sûr conseiller sur toutes les questions énergétiques et la problématique du gaz se pose puisque l'Europe a besoin de gaz. L'Algérie fait partie des solutions. Vous nous direz si c'est possible, si c'est envisageable. Et puis surtout, on va arriver peut-être tout de suite sur la guerre en Ukraine. Une population qui est en train de quitter l'Ukraine, des millions de réfugiés. On dit qu'il y a 1 million, 2 millions, mais c'est une aide humanitaire qui a du mal à se construire. Dans cette guerre, qui est l'agresseur finalement?
Bon, vous savez que c'est un dossier très très complexe. Hein. Poutine qui affirme que l'origine de cette guerre, c'est l'Occident et notamment les États-Unis, en voulant faire de telle sorte que l'Ukraine fasse partie de l'Union européenne et de l'OTAN.
Alors, c'est deux choses différentes. Faire partie d'une union économique, c'est une chose. Faire partie de l'OTAN, c'est autre chose. Il y avait des pourparlers pour que l'Ukraine soit candidate à l'Union européenne, mais en aucune façon, il y avait une candidature qui était posée à l'OTAN.
Non, donc, mais enfin, je
vous dis... avez du mal à dire que Poutine est l'agresseur, j'ai l'impression.
Non. Vous avez du mal. Ça, c'est pas mon avis, c'est ce que dit Poutine. De l'autre côté, les Européens affirment qu'ils n'avaient pas effectivement l'intention de faire adhérer l'Ukraine à l'OTAN et que, de toute manière, tous les experts de l'Union Européenne affirmaient que l'Ukraine n'était pas prête, du point de vue surtout économique, de rentrer dans le cadre de l'Union Européenne. Ça, c'est les deux positions. Maintenant, l'origine, effectivement, du conflit, bon, ça dépasse, me semble-t-il, le cadre strictement économique, mais rentre dans une nouvelle reconfiguration géopolitique et des relations internationales entre notamment la Russie et l'Europe et les États-Unis.
Mais en attendant, il y a un plan de paix ou des discussions qui sont proposées. On voit bien que c'est un dialogue de sourds entre les dirigeants ukrainiens et Vladimir Poutine. On voit bien que Vladimir Poutine veut occuper l'Ukraine. Il l'occupe déjà au sud-est, au Donbass, en Crimée. Il est en train de prendre Odessa, etc. Et il veut que l'Ukraine soit désarmée, qu'elle ne fasse pas partie de l'Union européenne, ne fasse pas partie de l'OTAN. Et de l'autre côté, les dirigeants nationalistes, le gouvernement ukrainien, souhaitent être disposé de son avenir, être indépendant. Et s'il souhaite adhérer à l'Union européenne, qu'il puisse y adhérer. Et il y a un chemin comme ça qui se décide pour faire de l'Ukraine une espèce de Suisse de la région. Cette idée de Suisse de la région, ça vous séduit, vous ?
Non,
écoutez... Un pays neutre, quoi, en fait.
Non, moi, je pense que la position des États-Unis, surtout des différents dirigeants de l'Union européenne, elle est claire de ces derniers 24 heures. C'est que l'Ukraine ne peut pas adhérer à l'Union européenne. Elle n'est pas prête, c'est-à-dire qu'il y a des conditionnalités et c'est utopique sur le plan économique d'adhérer à l'Union européenne. De l'autre côté, le secrétaire d'État américain a dit qu'il n'est pas question que l'Ukraine adhère à l'OTAN. Donc
c'est clair.
C'est clair. Donc maintenant,
Pourquoi Poutine avance ses pions alors ?
Est-ce qu'on s'oriente vers une zone démilitarisée Et comme vous le dites si bien, une zone relativement neutre, ça dépendra des négociations et des rapports de force entre, puisque les négociations sont en cours. Moi, je profite de cette occasion pour dire que mon pays, l'Algérie, a adopté, lors de la résolution de l'ONU, une position de neutralité. Ce n'est pas propre à l'Algérie. Israël a adopté une position de neutralité. Et tous les pays du Maghreb, d'Afrique, et même les pays du Golfe, ont adopté une position de neutralité. Ce sera abstenu. Ni pour l'un, ni pour l'autre. Donc, attention. Et là, effectivement, lorsque vous adoptez une position de neutralité comme Israël, par exemple, et puis moi je félicite la position de la France qui n'a pas coupé le pont avec le... Parce qu'il faut... Après la guerre, il y a toujours l'élément de dialogue. Donc il ne faut jamais couper le pont. Et je pense que le président Macron est souvent en contact permanent avec Poutine. Et la France pourrait effectivement, lors de la période de négociation, jouer un rôle important pour essayer de concilier les deux points de vue.
Alors, on a vu que les Européens, qui étaient un petit peu divisés sur différents dossiers, qui n'arrivaient pas à se mettre d'accord, sont en train de se mettre d'accord sur deux choses. La première, c'est qu'il y a l'idée d'une Europe de la défense. Déjà, est-ce que vous y croyez? Quand on voit combien les Européens sont divisés, on l'a vu notamment au moment de l'invasion en Irak, où l'Europe était divisée en deux, il y avait les suivistes des États-Unis, les autres qui étaient contre, derrière Jacques Chirac. Est-ce que vous croyez à une Europe de la défense?
Bon, vous savez, c'est un vieux rêve que caressent certains pays, notamment la France et l'Allemagne. Hein. Mais à l'intérieur de l'Europe, il y a des gens qui sont beaucoup plus proches des États-Unis. Hein. Comme la Pologne, bon, je ne parle pas de l'Angleterre qui est sortie de l'Union européenne, c'est évident, mais il y a pas mal de pays qui préfèrent rester dans le cadre de l'OTAN. Bon, c'est un vieux rêve qui revient un peu sur tous les plateaux de télévision française que j'ai pu constater cette semaine, où on pense effectivement... à une Europe de la défense. Bon, l'élément le plus important qui a marqué ces événements, c'est la position allemande, avec le retour en force du budget militaire. Hein. Donc, est-ce que l'axe franco-allemand pourra influencer à l'avenir les autres pays pour faire de telle sorte que l'Europe ait effectivement un système de défense relativement autonome. Parce que rappelez-vous un peu ce qu'a dit il y a plus d'une année et demie le président Macron. Il a dit que l'OTAN, effectivement, n'est pas là, effectivement, est totalement hors circuit en dehors de l'Europe. Donc là, effectivement, à l'intérieur de l'Europe, il y a des divergences.
Hein. Alors, la deuxième chose, c'est que l'Europe semble aussi être unie sur la question des sanctions économiques. Il y a vraiment un front, il y a de grosses sanctions économiques contre la Russie. Le rouble a été dévalué, il y a une espèce d'asphyxie des grandes fortunes et de l'économie russe qui se tourne aujourd'hui vers la Chine. Est-ce que ces sanctions économiques ne vont pas aussi avoir un effet boomerang sur les pays européens, puisque la consommation en subit les contre-coups, le pétrole qui augmente, le blé qui se fait rare, etc. etc. Ces sanctions économiques, est-ce qu'elles ne sont pas à double tranchant?
Bon, moi, je voudrais vous relater un thème pour pouvoir analyser les impacts et enjeux économiques. Il est intéressant d'analyser le flux des échanges et commerciaux entre la Russie et le reste du monde, d'une part, et les flux entre l'Europe et la Russie, et l'Europe et les principaux partenaires à l'exportation. Bon, vous savez que pour l'Europe, les principaux partenaires à l'exportation sont... Le reste du monde, 56,5%. Les USA, 18,3%. C'est les chiffres de 2021. La Chine, 10,2%. La Suisse, 7,2%. La Russie, seulement 4,1%. Et la Turquie, 3,6%. Les principaux pays pour l'importation sont le reste du monde, 49%. La Chine, 22%. Et les USA, 1%. Et la Russie, que 7,5%. Bon, en ce qui concerne effectivement, c'est que la Russie est beaucoup plus effectivement dépendante de l'Europe que l'Europe dépendante de la Russie. Hein. N'oublions pas que les exportations de gaz représentent à peu près 47% de la consommation européenne, mais qui ont un impact entre 15 et 20% sur le PIB, le produit intérieur brut russe. Il y a une véritable, effectivement, interdépendance entre les deux économies. Bon, n'oublions pas que la Russie, il ne faut pas prendre que le pétrole, à peu près 46-47%, le gaz, pardon, le pétrole, c'est à peu près 26-27%, mais c'est un des grands producteurs, effectivement, d'aluminium, d'autres produits minerais, qui se répercutent sur, effectivement, l'ensemble des produits, parce qu'en économie, la production est la production de marchandises par des marchandises. Donc, là, le grand problème qui se pose, est-ce que les sanctions économiques vont-elles avoir un impact? Bon, c'est vrai qu'ils vont avoir un impact, effectivement, sur la Russie, mais avec, au 31-12-2021, ils ont quand même 630 milliards dollars de réserves de change, ils ont plus de 2000 tonnes de réserves d'or, les échanges avec la Chine sont passés en 10 ans de 4% à 13,5%. Est-ce que l'axe Chine-Russe risque de ne pas entraîner une nouvelle reconfiguration des relations internationales? De l'autre côté, les pays européens vont avoir un effet. On le voit à travers l'inflation, le prix du pétrole, du gaz, de certains produits. Et là, c'est un véritable problème pour les pays européens qui viennent à peine de sortir de la récession économique du fait de l'impact du coronavirus.
On se retrouve dans un instant et vous nous expliquerez comment vous aussi, vous êtes partisan d'une espèce de troisième voie. À tout de suite.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Toujours avec Abdelrahman Mebtoul, grand spécialiste des questions économiques et surtout énergétiques, puisqu'il a conseillé le géant de l'énergie Sonatrach en Algérie. Il a été aussi conseiller et il a été aussi surtout sur la Méditerranée, chef de file sur cette Méditerranée. Justement, Abdelrahman Mebtoul, vous êtes partisan d'un dialogue euro-méditerranéen, d'un partenariat stratégique Europe-Afrique via la Méditerranée, avec le Maghreb comme tampon. Ça veut dire que autour de la Méditerranée, il pourrait y avoir une espèce d'alternative énergétique, économique, entre l'Europe et l'Afrique.
Bon, moi, je pense que, d'abord, que pour pouvoir se libérer de la dépendance, effectivement, énergétique russe, il faudrait axer l'action à moyen terme 2022-2030 sur à la fois l'efficacité énergétique et la transition énergétique par le développement des énergies renouvelables. Et bien sûr, entre 2030-2040, tous les experts en énergie disent que l'énergie du futur, ça sera l'hydrogène. Bon, en ce qui concerne
l'hydrogène et le plancton,
à moyen terme, c'est que l'Algérie, par exemple, qui a 30 000 heures de soleil par an, Ain Salah est un des coins les plus chauds du monde, pourrait
plus ensoleillé.
Ensoleillé, pourrait effectivement être un élément très important à travers des interconnexions pour et à la fois permettre à l'Algérie d'honorer ses engagements internationaux en 2030 parce que la consommation intérieure va à une allure telle sorte qu'elle risque d'éponger le volume des exportations et pouvoir satisfaire sa consommation intérieure, mais pouvoir exporter. Ça rentre dans un cadre de partenariat gagnant-gagnant.
On va revenir dans un instant à l'Algérie, mais vous parlez de la Méditerranée. Est-ce que, justement, il n'y a pas un danger dans cette Méditerranée quand on voit que Poutine a pris la mer d'Azov, il a pris la mer Noire avec la Crimée et avec tout l'est de l'Ukraine. Il s'est installé en Syrie et personne ne pourra l'en déloger. Il s'est installé dans la moitié de la Libye, donc en Méditerranée occidentale. Il a des bases arrières au Mali, puisqu'aujourd'hui, avec le groupe Wagner, il contrôle le pouvoir malien et aussi d'autres pays d'Afrique. Est-ce que là, et donc ça c'est pour Poutine, on voit aussi les appétits territoriaux d'Erdogan, qui a pris la moitié de Chypre. Aujourd'hui, il a déplacé les populations. Et la moitié de Chypre est occupée, est peuplée par des Turcs. Il a aussi essayé de prendre les eaux territoriales en Grèce, où il estime que aussi ça lui appartient pour exploiter le pétrole. Il y a des appétits comme ça, donc d'autres puissances, hein, la Turquie, la Russie, mais aussi certainement d'autres. Est-ce qu'il n'y a pas un danger sur cette Méditerranée qui viendrait un petit peu contredire un petit peu votre espoir de construire une Méditerranée mobile, flexible et qui puisse offrir une prospérité avec des appétits comme ça qui viendraient geler ou créer de la guerre?
Non,
du conflit.
Moi, je pense que l'Europe est en train de payer son manque de prévision vis-à-vis à la fois de la Méditerranée et de l'Afrique. Hein. C'est que l'esprit, effectivement, colonial d'antan est terminé. Hein. Donc, là, il appartient à l'Europe d'avoir une autre vision à la fois de l'espace méditerranéen, mais surtout de l'Afrique. Dans la mesure où les enjeux futurs, et vous venez de le décrire en Méditerranée et en Afrique, vont entraîner... L'Afrique, ça va être l'enjeu du 21e siècle, à partir 2030-2050.
Les convoitises ont commencé.
C'est les convoitises. Il y a la Chine, il y a les États-Unis, il y a l'Europe.
On assiste, il y a le Maroc, il y a tout le monde.
On assiste effectivement à une perte de l'influence française en Afrique. Les Russes, les Turcs, certains même pays émergents sont en train de se placer en Afrique. N'oublions pas les pays du Golfe qui investissent énormément, dont l'Arabie Saoudite et le Qatar, en Afrique. Donc c'est un lieu de rivalité parce que ça va représenter vers les années 2040 un quart de la population mondiale, et c'est un continent qui recèle des ressources immenses, immenses, immenses. Donc le
Golfe... Alors, que faut-il peut-être pour gérer ça en amont, avant que les conflits et les guerres se déclarent? Enfin, les conflits existent déjà, il y a des guerres, on voit avec les réfugiés qui meurent en Méditerranée, mais que faut-il faire peut-être pour éviter que ça s'envenime et peut-être inverser la tendance? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Non, le grand problème, c'est d'aller vers un partenariat gagnant-gagnant, notamment pour éviter aussi les flux migratoires, parce que c'est un quart de la population mondiale. Donc, le co-développement, l'Europe doit réviser totalement sa position vis-à-vis, effectivement, de cet espace. Hein. Moi, je prends un exemple très, très important. Si on prend les pays du Maghreb, ils se tournent actuellement vers la Chine. Regardez un pays comme le Maroc. Le Maroc, les investissements russes et chinois sont très, très importants au Maroc. En termes d'investissement, ils sont plus importants que ceux de l'Algérie. Parce que disons, beaucoup disent, oui, l'Algérie c'est un allié stratégique de la Russie. C'est vrai, en termes d'importation de l'armement. Mais de l'autre côté, dans les affaires, il n'existe pas de sentiment. Moi, je vais vous donner un exemple que j'ai vécu pour avoir donné en 2007-2008 une conférence à la Chambre de commerce de Corse. Au moment où on voulait faire le Galci, 8 milliards de mètres cubes gazeux, qui devait d'ailleurs, et le président Sarkozy à l'époque avait donné son accord pour effectivement approvisionner la Corse, ce qu'on appelle l'île de la beauté, parce qu'elle est surtout le gasoil. Et les Russes ont fait pression sur les élus de la Sardaigne pour faire capoter le projet. Donc vous savez, nous, la Sonatrach a une position purement commerciale. Et je vous ai dit, la neutralité politique, elle est nette et précise. Mais nous, l'Algérie doit défendre avant tout ses propres intérêts.
Alors justement, vous parliez de la Chine, pour revenir un petit peu au conflit en Ukraine. On parle d'une alliance russe-Chine, qu'en pensez-vous? Aujourd'hui, le rouble est dévalué. À l'ONU, la Chine, comme d'autres pays que vous avez cités, s'abstient, mais c'est une abstention qui est un peu passive, elle n'est pas très active. Donc est-ce que c'est une alliance conjoncturelle, quand on sait que la Chine dépend aussi de l'activité économique en Occident, et puis ne pas oublier aussi qu'il y a des conflits territoriaux entre la Russie et la Chine, et que la Chine revendique des territoires en Russie. Que pensez-vous de cette idée que la Russie va se tourner vers la Chine ?
Bon, vous savez que les échanges, la Russie est dans ses réserves de change, environ 13% sont en yuan, hein. Mais les échanges entre la Russie et la Chine sont relativement marginaux, bien qu'en nette augmentation. Les principaux courants d'échange de la Chine sont avec les États-Unis et l'Europe, ne sont pas avec la Russie. Bon, la Chine est une très grande puissance économique, elle va devenir peut-être dans quelques années la première puissance économique du monde, elle ne voit que ses intérêts. D'ailleurs, l'histoire de la Chine a montré que l'expansionnisme territorial n'a jamais eu lieu, excepté peut-être quelques îles limitrophes. La Chine n'a jamais été un agresseur au sens propre du terme. Bon, l'expansionnisme russe et allemand est connu à travers l'histoire.
Et si elle veut faire la route de la soie version 21e siècle, elle a besoin de l'Occident.
Oui, mais je vous dis, la Chine risque, avec ses intérêts, d'abandonner sur la route la Russie. Ça, c'est clair, net et précis. C'est ce qu'on appelle une alliance de conjoncture. De conjoncture, malgré le fameux gazoduc qui a été inauguré par le président chinois et russe, qui couvre à peu près 9,5% de la consommation chinoise, à peu près 50 milliards de mètres cubes gazeux. Mais la Chine est tournée surtout sur l'Occident à travers, comme vous voulez dire justement, la route de la soie. C'est pour pénétrer effectivement le fameux continent Afrique. Donc, moi, je pense que la Chine, d'ailleurs, elle a eu une position neutre. Elle a condamné l'expansion territoriale de la Russie, mais elle a dit l'Occident est en train de menacer la sécurité de la Russie. Donc, elle a partagé la poire en deux. Mais moi, je pense que les Chinois, ayant une vision économique planétaire, si demain les tensions devaient s'accentuer, ses intérêts économiques, c'est effectivement de minimiser ses relations avec la Russie.
Abdelrahman Mebtoul, avant d'arriver à la position et à la place de l'Algérie, qu'on va développer dans le détail, question, est-ce qu'il ne faudrait pas décider que finalement, pour arrêter toutes ces conflagrations, cette menace sur la planète de façon, c'était l'énergie nucléaire, etc., est-ce qu'il ne faudrait pas décréter une bonne fois pour toutes que les énergies fossiles et autres, le gaz, le pétrole, etc., soient un bien commun, qu'ils soient partagés par l'ensemble des habitants de la planète, que les États se mettent d'accord sur un moratoire. Bien sûr, ça va contre le système des États-nations, mais est-ce que finalement, pour le bien de l'humanité, pour sauver la paix, pour sauver la planète, pour diminuer les menaces, les convoitises, les guerres d'expansion, est-ce qu'il ne faudrait pas décréter que ces énergies soient un bien commun et qu'il y ait une répartition équitable en fonction des besoins des habitants de la planète, tout simplement ? Est-ce que c'est utopique ?
Non, c'est utopique. Hein. Je ne pense pas que ça puisse se réaliser. Il y a un autre facteur qui est important. Vous savez que l'élément culturel sera déterminant pour le XXe siècle. La culture est très très importante. C'est par la culture, par le dialogue des civilisations qu'on pourra atténuer les tensions. C'est par là. Ça veut dire qu'il faut favoriser les flux d'échanges, les universités, le théâtre, etc. Les hommes de culture, les intellectuels ont un rôle très très important pour aplanir les tensions. Donc, effectivement, le rôle de la société civile. La société civile est contre, effectivement, les conflits. Elle a toujours été... Je prends l'exemple des religions. Et les religions, que ce soit le christianisme, l'islam, à ne pas confondre avec l'islamisme, ou le judaïsme, ont été toujours des religions de tolérance. Donc, vous voyez, d'ailleurs... Ceux qui ont le plus, à travers l'histoire, protégé les Juifs, ça a été les musulmans. Les musulmans.
Oui, c'était
alors qu'ils ont été persécutés par le catholicisme, etc. etc.
C'est la notion de dhimmi, de protéger.
Oui, de protéger. Donc, vous voyez, moi je pense, pour diminuer, pour répondre à votre question, c'est, moi je pense que c'est un mythe, ce que vous avez souligné, pour le bien... Par exemple, le bien collectif, on pourrait l'appliquer aux énergies renouvelables. Aux énergies renouvelables. Mais pas aux énergies fossiles.
On se retrouve dans un instant pour parler en détail de l'Algérie.
Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Khétan sur Beurre FM.
Abdelrahman Mebtoul, grand témoin. Aujourd'hui, l'Algérie est un peu, on la voit, je dirais presque de façon involontaire, se retrouve au centre des enjeux. À la fois sécuritaire et énergétique. Et pour les Américains, par exemple pour le département d'État, l'Algérie se constitue un rempart contre le terrorisme, notamment la lutte contre les groupes intégristes comme l'ACMI et les autres. Et on voit que, par exemple, l'Algérie a là 1376 kilomètres de frontières avec le Mali, 1000 km avec la Libye, 1000 km avec le Niger, 1000 km avec la Tunisie, environ 5000 km de frontières communes, donc un aspect sécuritaire qui est très important. Et là, notamment au Mali, le plan d'Alger sur la réconciliation a semblé prendre le pas sur toutes les autres options françaises, européennes, etc. Donc l'Algérie se retrouve au centre de l'aspect sécuritaire, notamment de la guerre au Sahel, et sur l'énergie. Aujourd'hui, on se tourne vers l'Algérie, notamment sur le gaz et sur le blé. Bon, l'Algérie importe son blé, mais on voit en Algérie une soupape supplémentaire, parmi tant d'autres, mais une soupape importante, sur l'alimentation en gaz. Mais vous dites que l'Algérie a du mal à sortir de sa politique économique hydrocarbures. Les investissements hors hydrocarbures patinent. C'est très compliqué depuis 40-50 ans. Et puis surtout, chose nouvelle que vous dites notamment dans vos publications, la consommation domestique est en forte hausse et à l'aubert les capacités d'Algérie pour exporter. Et puis, l'Algérie n'arrive pas à s'engager vers la transition énergétique, vers le développement d'une alternative économique. Alors sur ces deux aspects qui font que les feux de la rampe sont dirigés sur l'Algérie, quelles sont vos analyses et vos réponses ?
Bon, concernant le problème sécuritaire, c'est que ce soit les États-Unis ou l'Europe, hein, c'est la déclaration de la Commission européenne récemment, est un acteur stratégique de la stabilité de la région. Bon, effectivement, à travers les forces de l'ANP et des forces de sécurité. C'est un élément très très important qui est salué tant par les États-Unis que par l'Europe et même, je dirais, par la Russie et la Chine, hein, accessoirement. Bon, c'est que l'Algérie est en train, grâce à des dépenses énormes du budget de l'armée, d'assurer indirectement la sécurité de l'Europe. Donc, c'est une armée relativement moderne, d'après nos informations.
Et l'Algérie a un crédit de ce point de vue-là. Elle a un crédit de par son histoire révolutionnaire.
Voilà.
Et elle a un crédit de par sa lutte contre le terrorisme.
Oui, oui, mais bien entendu, c'est ce que dit le département d'État américain. Parce que la lutte qu'on a connue entre 1998 contre le terrorisme a permis de capitaliser une expérience dans la lutte de tout ce qui peut se tramer au niveau du Sahel. Et à travers, effectivement, le perfectionnement de nos services de renseignement. Donc c'est un élément fondamental et toutes les puissances saluent effectivement, sans préjuger de la nature du pouvoir, là, il y a à discuter, le rôle de l'ANP et des forces de sécurité algériennes. C'est indéniable. En ce qui concerne l'aspect économique, parce que c'est lié, parce qu'il y a un lien entre la sécurité et le développement, parce que le non-développement peut provoquer l'insécurité, c'est-à-dire que l'Algérie ne pourrait plus s'occuper uniquement de ce qui se trame à ses frontières, mais aussi avec des remous sociaux au niveau intérieur. Les tensions sociales ont un coût. Un coût financier très, très important.
Bon, ces tensions que jusqu'à maintenant, l'Algérie a gérées à la fois avec, une répression et avec une politique de subvention. La répression avec la main droite et la politique de subvention avec la main gauche.
Moi, je pense que, attention, il faut... Les gens qui... Moi, c'est un élément très important. Est-ce que vous pensez que le président Joe Biden agit sans l'aval de la CIA? Est-ce que vous pensez que le président Macron ne fait pas référence à tous les dossiers que lui font la DGSE et l'armée française? Attention, il faut éviter effectivement de rentrer dans ces trucs. Bon, la démocratie est un long processus. Moi, je suis un démocrate, donc c'est un long processus, comme l'a dit le grand...
Mais la démocratie, avant tout, c'est d'être capable, pour un peuple, de changer ses dirigeants, par la voie des urnes, de façon pacifique. Mmh. Je ne dis pas par la violence. Mmh. Mais là, en Afrique, on a l'impression que c'est une époque glaciaire. C'est la glaciation. C'est des pouvoirs qui ne changent pas, quoi.
Bon, écoutez, n'oubliez pas que l'Algérie a connu un drame. Et je me demande comment elle est encore debout entre 90 et 2000. Bon, c'est l'ancien président parlait de 200 000 morts. 200 000 morts. Donc, effectivement, il ne peut pas y avoir, ça c'est mon analyse, de développement sans la participation citoyenne. Lorsqu'il y a une coupure entre l'État et les citoyens, on n'ira pas loin.
D'ailleurs, vous êtes un fervent partisan de la gouvernance citoyenne. Vous êtes pour, changer la gouvernance et intégrer la société civile en particulier
dans la nouvelle gouvernance. Une véritable décentralisation, mais pas déconcentration. Donc, ce n'est pas de créer des dizaines de wilayas à titre administratif. C'est-à-dire, moi, je suis partisan de grands pôles économiques régionaux pour rapprocher l'État du citoyen. Moi j'avais fait une visite aux États à l'invitation du département d'État aux États-Unis. Ce qui m'avait inspiré, c'était un peu l'expérience de Greenville, en Caroline du Sud, où il y avait des chambres de commerce régionales, où il y avait l'État, le gouverneur, les entrepreneurs publics et privés, les banques, les universités, la société civile, pour dynamiser effectivement à l'époque Greenville, pour qu'elle soit en concurrence avec le sud-est asiatique qui se développait à l'époque. Donc là, effectivement, il appartient aux dirigeants algériens, effectivement, d'éviter cette centralisation outrancière, de croire que l'Algérien est uniquement un tube digestif. Il aspire à plus de liberté, à plus de citoyenneté, à plus de participation dans la gestion de la cité. Et bon, ça, c'est effectivement les axes futurs si on ne veut pas aller dans une récession économique.
Vous dites vous-même que pour relever les défis qui sont posés à l'Algérie, les défis économiques de transition énergétique, d'alternatives, notamment sur les nouvelles énergies, et peut-être la défense de ses frontières, à savoir une coordination juridique et économique. Vous invoquez la porosité des frontières qui est très compliquée. Donc ça, là, c'est un talon d'Achille pour l'Algérie. Oui. Et sur l'aspect économique, vous dites, il y a une consommation qui est galopante, qui inverse, qui est plus importante que l'exportation. Et puis cette incapacité presque atavique de l'Algérie de ne pas réussir à se lancer dans les investissements en hydrocarbures. Quoi faire? Quelle est la solution?
Bon, moi, je ne vais pas contredire mes écrits nationaux et internationaux. Au moment où je vous parle, avec les dérivés, hein, 98% des recettes proviennent des hydrocarbures, avec les dérivés. Parce que le chiffre de 4 milliards de dollars hors hydrocarbures, à l'intérieur, il y a 2,5 des dérivés d'hydrocarbures. Ça, c'est les chiffres, effectivement, du PDG de Sonatrach. Donc, effectivement, on n'exporte que très peu hors hydrocarbures. Bon, le grand problème qui se pose pour l'Algérie, c'est effectivement comment aller vers une économie diversifiée. Bon, c'est que beaucoup de discours depuis l'indépendance politique à ce jour, mais effectivement, on est toujours dépendant. Quels sont les axes futurs ? Sur le plan énergétique, je suis un partisan du mix énergétique. Parce qu'il ne faut pas être utopique. L'Algérie, pendant encore 7 à 8, 9 ans, dépendra encore des fossiles traditionnels pour ses recettes. Mais il faut que ces recettes puissent servir à diversifier l'économie. Le deuxième élément, c'est d'aller vers l'efficacité énergétique. Or, actuellement, le ministère de l'Habitat prévoit 2 millions à 3 millions de logements avec les anciennes méthodes de construction. Alors qu'actuellement, il y a de nouvelles méthodes de construction qui économisent l'énergie à 30-40%. Et le troisième élément, c'est d'aller vers les énergies renouvelables. L'Algérie, avec 3000 heures de soleil, a toutes les potentialités pour réaliser effectivement le développement des énergies renouvelables.
Mais Abdelrahman Mebtoul, est-ce que si, ça sera la dernière question, comment expliquer que l'Algérie, qui était sous Rome, le grenier à blé de Rome, et qui regorge de richesses agricoles, en soit réduite à importer son blé pour nourrir sa population. Comment expliquer ça aussi ? Ce sera la dernière question.
Et bon, écoutez, évitez le mythe de Rome. Le mythe de Rome, c'était l'Algérie avait une population de 3-4 millions, et maintenant nous sommes à 45 millions au 1er janvier 2005. Moi, je pense que l'avenir appartient à l'agriculture saharienne. Donc là, il y a actuellement une délégation américaine. Par exemple, l'expérience du Texas est importante. L'Algérie recèle un océan au niveau du désert. Avec des unités de dessalement, etc., on peut effectivement développer à fond l'agriculture, notamment la culture du blé et de l'orge, au niveau effectivement. Regardez la Russie. La Russie, il y a quelques années, était importateur de blé, il y a 15-20 ans. Maintenant, entre l'Ukraine, puisqu'on revient aux tensions, entre l'Ukraine et la Russie, elle couvre 30% des exportations mondiales.
Abdelrahman Mebtoul, merci d'être venu nous éclairer. Nous avons vraiment profité de vos lumières dans une période qui est très trouble, très compliquée, très complexe. Et on aura bien sûr l'occasion de vous réinviter. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes conseiller stratégique, géopolitique et que vous êtes un spécialiste des questions économiques et environnementales et que vous êtes aussi un amoureux de la Méditerranée et que pour vous, la Méditerranée, c'est aussi la solution pour beaucoup de problèmes. Merci mille fois d'être venu dans les grands témoins.
Je vous remercie, M. Nasser Khattan, de cette aimable invitation de Beurre Radio.
À très bientôt. Merci.
Merci.
Retrouvez les grands témoins tous les dimanches de 17h à 18h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.